Il y a quelqu'un qui texte, il dit faudrait aller voir à l'usine d'épuration des eaux, semble-t-il, qu'on pourrait trouver. C'est ça. Alors, je vous l'ai dit, il fait beau, puis c'est une tabarouette de belle soirée pour aller au baseball. Peut-être les Capitales sont en série ce soir, Ray, on n'est pas sûr, hein?
Pas sûr, non.
On va aller voir le grand patron des Capitales de Québec, Michel Laplante, qui est au bout du fil. Bonjour, Michel.
Bonjour, Stéphane. Hey, si on est en série, faut-tu me le dire?
Non, mais ça serait-tu beau pour avoir de la balle de série à soir? Tu sais, on se met un petit manteau, une petite couverte, puis c'est des maudites belles soirées de baseball perdues.
Oui, au mois de septembre, on a eu des belles journées, évidemment.
Ouais. Là, il y a quand même une belle nouvelle qui a été annoncée hier, mais dans la situation actuelle, comment tu vois la saison? As-tu un peu d'inquiétude pour la saison prochaine?
Ben absolument. Je veux dire, on n'est pas encore sorti du bois. Puis je sais pas, moi, d'ici mars, avril, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de remède ou quelque chose comme ça. Ben écoute, on peut pas passer des saisons infiniment comme ça non plus. Là. Je veux dire, il y a un staff, il y a une ligue, il y a plusieurs choses à régler. Donc on se croise les doigts. On espère que dans les prochains mois, on va trouver quelque chose. Mais c'est pas des situations qui peuvent perdurer pour nous puis pour plusieurs équipes. On a eu beaucoup de réunions là dans les derniers jours, l'ensemble des différents marchés là. Et c'est pas une situation qui est facile. Présentement, en tout cas dans notre ligue, là, les 14-15 équipes sont prêtes à aller de l'avant encore pour l'an prochain, puis tout le monde est correct financièrement. Mais comme on se dit, là, une autre année de plus, puis ça serait la fin pour plusieurs marchés.
C'est ça. Parce que là, vous avez subi des pertes financières. Là, tu l'as dit, le personnel, vous avez payé du monde, vous n'avez pas slacké personne, je pense, ou en tout cas, vous en avez gardé à l'emploi. Ça veut dire que vous aviez des salaires à défrayer. Est-ce que tu avais un bail également pour le stade à payer? Comment ça marchait au niveau de toutes tes dépenses?
Ben en fait, on avait pour opérer une équipe, puis la même chose pour une équipe de hockey ou une équipe de baseball l'été puis l'équipe de hockey d'hiver, on n'ouvre pas l'équipe de hockey ouvre pas ses bureaux le 1er septembre puis dit bon ben il va rentrer du monde le 5 septembre, puis on va présenter du hockey junior majeur cette année. Tout comme c'est la même chose au baseball, quand on ouvre les portes le 26 mai, on se prépare depuis le 1er janvier. Il y a de l'affichage, il y a de l'achat de matériel, il y a de la préparation, il y a de la production, il y a toutes sortes de choses à faire d'une saison. Donc, en arrêtant la saison le 15 mars, en pensant peut-être que ça pourrait reprendre au mois de mai, ben nous, à partir de décembre, l'an passé, janvier, février, mars, tout le monde a travaillé puis se prépare une saison. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas récupérable. Il y a des choses qui se récupèrent, les vêtements qui ont été achetés pour la boutique souvenir, puis ces choses-là, ben il y a quand même probablement 75-80% du matériel qui peut être repris puis distribué dans les prochaines années. Mais on s'attendait à une bonne année parce qu'on avait une belle réponse cette année là au printemps là autant du corporatif que de l'achat de billets flexi puis du billet de saison qui avait augmenté aussi. Donc on s'en laisse une bonne saison. Donc c'est des pertes, mais en même temps on veut continuer de l'avant parce que ce qui s'en vient peut être positif si jamais on recommence à jouer. Donc on se prépare puis on va retomber là dans les prochaines semaines à préparer la saison prochaine avec prudence évidemment parce que c'est pas à 100% sûr qu'on va jouer, mais on l'espère vraiment.
Sur la planète, Michel, il y a plusieurs joueurs de baseball qui n'ont pas joué au baseball cet été. C'est quoi l'impact de pas jouer pendant, ça va faire un an là, pour plusieurs joueurs de baseball pour l'an prochain, mettons?
Ben je pense que c'est gros l'impact. Tu sais, t'as 21-22 ans, tu joues à l'université, t'es déçu, t'es pas repêché. Ah ben je vais aller dans le baseball indépendant, je vais aller jouer quelque part en Australie, puis je vais donner une bonne saison. Puis il y a un dépisteur qui m'a appelé puis il dit écoute, on t'a pas repêché, mais on pense que t'as vraiment passé proche. Fait que là, tu dis ah, je vais continuer un an de plus.
Ouais.
Si t'as pas joué cet été, d'après moi, t'arrêtes. Puis la même chose pour le gars qui a 24 ans, il est dans le 2A, il est à la porte des majeurs, il a une blessure l'an passé, là il dit ah ben je me suis entraîné tout l'hiver, je vais revenir cet été, puis je vais prouver que je suis capable de jouer encore. À un moment donné, il était à croiser des chemins puis il décide peut-être d'arrêter. J'ai hâte de voir ce que ça va créer. Mmh. La dernière universitaire n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que ça va faire pour les joueurs? En même temps, l'annonce de Major League Baseball hier qui s'associe un peu avec nous dans tout ça, ben devrait moins de rondes de repêchage, moins d'équipes de baseball affiliées, plus d'équipes associées dont on en fait partie. Peut-être que ça va nous aider aussi à travers tout ça. Fait que je sais pas. Honnêtement, à brûle pour point, mais je ne sais pas ça va être quoi la réaction du joueur. Moi, je sais que je retourne à 25 ans
oui.
Et on me dit, je passe une année sans jouer, j'aurais pas continué à jouer
par la suite.
J'aurais fait d'autres choses. Puis, ouais.
C'est bien triste. Par contre, là, tu es là parce que en plus, tu connais beaucoup le baseball affilié. Tu as été dans le réseau du baseball affilié quand même assez longtemps. Tu as fait une carrière là-dedans. Et là, hier, c'est-tu une si grosse nouvelle? Quel est l'impact de votre ligne indépendante, la Ligue Frontier, d'être parrainée maintenant par le baseball majeur?
Ouais, en fait, la grosse nouvelle, elle sort peut-être il y a un an, mais il n'y a rien qui est confirmé. Ça veut dire qu'il y a un an, on nous annonce qu'il y a probablement 42 équipes qui vont être libérées du baseball affilié. Et je dirais même que depuis 4-5 ans, on entend parler qu'on veut baisser le nombre de rondes de repêchage en baseball majeur. Oubliez pas, le hockey, on est rendu à quoi? C'est 8 ou 12 rondes? C'est 8 rondes?
7 rondes maintenant, oui. Il y en a déjà eu 12.
C'est 7 rondes, puis vous regardez dans les autres sports, puis c'est tout autour de ces chiffres-là.
Oui, oui.
Au baseball, on est à 50 rondes de repêchage. Et chacune des équipes du baseball majeur a sous sa filière 6 équipes. Donc, c'est pas juste une équipe de la Ligue américaine, là. C'est recrue, short season. Après ça, c'est A faible, A moyen, A fort, 2A, 3. Donc, il y a toutes ces étapes-là pour se rendre en haut. Une des raisons pour laquelle le baseball majeur veut ça, c'est qu'en même temps, ben, il se trouve à avoir 260 marchés à travers les États-Unis où il y a du baseball, donc c'est bon pour la promotion.
Mm-hmm.
Et on dit que le développement du joueur de baseball, c'est plus long, c'est 4-5 ans, donc tu vas faire tes classes des mineurs pour arriver près dans le baseball majeur. Sauf que vous remarquez dans le baseball majeur des dernières années, il y a des joueurs qui montent à 21 ans maintenant, là, à 20, 21 ans, 22 ans, les Guerrero. Et on voyait pas ça avant, donc avec toute l'analytique puis tout ce qui se passe, ben on dit le joueur arrive peut-être à son prime plus jeune, à 26-27 ans. Fait que pourquoi perdre les années de 20-20 ans? Fait qu'on dit, OK, on va couper plein de rondes de repêchage, on va enlever 2-3 équipes de baseball affiliées dans chacune des organisations, puis on va rouler juste ce qui est pas fou non plus, mais du côté marketing, t'enlèves vraiment des marchés qui étaient implantés de baseball. Il y a des équipes aux États-Unis, là, des petites villes qui ont du baseball depuis 50, 60, 70 ans. Là. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces marchés-là qu'on libère? Et là, il y a plein d'options. On est tout en train de les charmer, chacune des ligues, que ce soit la Ligue indépendante de l'American Association, nous, la Frontier, avec l'Atlantique, on se dit, écoute, ce marché-là, il est presque dans notre rayon. Nous, on fait juste regarder la situation présentement entre Québec, New York et Saint-Louis, si on fait un triangle, là, mm-hmm. dans ces 42 équipes-là, il y en a 20 que l'autobus va passer devant chez eux. Là.
Ça veut dire qu'ils pourraient se joindre à votre ligue, mais comment ça aide le baseball majeur de faire ça? Je comprends pas. Là.
C'est une diminution de coût.
Le baseball, au niveau légal, le baseball majeur, donc, t'as une franchise de baseball qui a monté en valeur. Au début, tu l'as acheté dans les années 70, je sais pas, moi, 500 000 $ elle vaut maintenant 5, 6, 7 millions. Et là, tout à coup, on dit c'est terminé, ça existe. Un peu comme qui arrive avec les taxis ou qui arriverait avec le hockey junior majeur où les dernières franchises ont coûté quoi, 2, 3 millions. Puis là, tu dirais, ah, OK, on coupe ça à 8 équipes. Mais tu fais quoi avec tes franchises? Donc, le baseball majeur est en train de dire à ceux qui ont coupé, attendez une seconde, là, on va vous trouver une ligue, on va créer du baseball associé où on va tous travailler ensemble, puis ça serait pas impossible que on est en train de travailler là-dessus, que les Red Sox disent, écoute, on envoie 2-3 joueurs au capital de Québec qui sont prêtés, un peu comme on prête dans la East Coast League.
Pas les Red Sox, on va prendre les Yankees, OK?
Ouais, on peut pas, non, mais n'importe quelle équipe, mais t'as raison, mais c'est un peu tout ça qu'ils veulent associer. Il y a des règles de baseball majeur qui s'en viennent, ben ils vont les faire tester, mais c'est comme si le baseball indépendant arrêtait d'être indépendant,
mm-hmm.
puis finalement il devenait associé dans tout ce grand puzzle là.
C'est bon, un petit peu comme ça que ça pour le là. Fan de baseball comme moi là qui est passé à ça du majeur, quelqu'un qui aime la game, pour le fan de baseball, ça veut dire que le calibre va encore un peu être rehaussé là, puis pas à peu près même.
Je sais pas s'il va être rehaussé. Ça, je peux pas. Mais ça, je peux pas le dire parce que je sais pas quelle tangente tout ça va prendre.
Okay.
Je trouve juste que au niveau crédibilité, comme là, on était rendu à 15 équipes parce que bon, Ottawa va probablement annoncer officiellement aujourd'hui qu'ils reviennent avec un nouveau propriétaire, tout ça. Mais mettons qu'on joue à 14-15 équipes, on va peut-être tomber à 20-24 équipes dans les prochaines années.
Okay.
Ben c'est stabilité, c'est la perception du fan que bon, il voit une ligue plus grosse.
Le logo du baseball.
Oui, le logo du baseball, puis même les nouveaux logos qui arrivent en ville. Au lieu de jouer à 5-6 équipes, si on est 24 dans notre ligue, ben ça amène une stabilité. On sait que la stabilité là, que ça peut apporter à au capital, ben ça donne l'impression que bon, on va investir dans le stade Canac parce que c'est ici pour y rester. Il y a plus d'activité et tout ça roule. Puis pour le fan, ben de savoir qu'il va avoir des capitales pas au jour le jour sur le respirateur officiel parce que la Ligue, on a un peu de difficulté, mais que c'est stabilisé à 24 équipes. Ça peut amener une équipe sur la rive nord à Montréal, rive sud, parce que depuis un an, deux ans, je suis prêt d'avoir un groupe qui est très intéressé, mais ils se demandent toujours, écoute, je bâtis-tu un stade de 20-25 millions et je me retrouve le bec à l'eau dans deux ans parce qu'il n'y a pas de ligue. Mais si on sécurise tout ce niveau-là, ben c'est le fun. Puis la visibilité pour la ville de Québec, ben c'est intéressant parce que tu te retrouves à jouer dans 23 différentes places aux États-Unis.
Puis on est au nord, là. Hey, pour les Américains qui ont joué au baseball à Québec, honnêtement, t'sais, pour eux autres, on avait rien que les Nordiques, là. Mm-hmm. C'est très bon pour la ville de dire, hey, oui, on est, puis on est de calibre à jouer au baseball avec n'importe qui. Là.
Ouais. Ben surtout le stade, là, la façon qui est tout en train de il est de plus en plus beau. J'ai cette vue-là ce matin avec le programme de sport études qui pratique présentement. Là, puis c'est le fun. C'est beau à voir. Il est utilisé avec Cazo qui va être refaite aussi à partir là, des prochaines semaines. Puis tout ça, je pense qu'on est dans la bonne direction. On savait qu'on a un beau produit avec les capitales ici, puis on est appuyé par les gens. Tout ça, je pense qu'au niveau de la Ligue, il manquait quelque chose. Puis là, ben, tout ça est arrivé dans les derniers jours, s'est développé. Puis l'ajout des prochaines équipes, les négociations qui vont se faire, je pense que ça va être vraiment le fun à faire partie de ça puis voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça.
Moi, je pense que les capitales puis les équipes indépendantes doivent garder justement leur côté indépendant, autonome. Mais moi, ce que j'aime là, dans la nouvelle, c'est que les gens qui ont vécu l'époque où ici, il y avait un club école des Expos, c'est les André Dawson, Gary Carter, ils ont joué au stade municipal puis ils étaient trop forts. À un moment donné, ils sont montés. Ça va être ça pareil. Il y a une possibilité qu'on ait des joueurs qui vont jouer dans le baseball majeur quelques années plus tard puis pendant quelques semaines, quelques mois. Mais il faut que les équipes gardent leur indépendance. Mais moi, je trouve ça le fun en battant. Est-ce qu'on puisse voir des joueurs vedettes? Là, il va falloir qu'ils se développent à quelque part.
Ouais, c'est le fun quand tu assistais. Moi, je me souviens avoir vu Nomar Garcia-Para à Portland, Maine. T'sais, quand tu le sais par après, sur le coup, je le savais pas. Ouais. Mais moi, je garde mes line-up. Fait que j'étais là.
Tu gardes tes line-up.
Ouais, moi, je garde toutes mes line-up.
Ben oui. Mais ça, c'est le fun.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, monsieur, là, c'est que même le joueur, là, quand on l'appelle pour venir jouer ici, là, je veux dire, quand tu dis baseball indépendant, mais il peut avoir un petit côté condescendant qui dit, ah, c'est pas vrai, je m'en vais pas là. Mais quand tu fais partie du même réseau de MLB, le joueur a l'impression que, il est plus suivi, sa stat, fait partie de il est dans l'ordinateur, là, tu sais. Donc, il fait partie de la donnée, tout ça. Fait que c'est probablement plus facile pour le joueur de continuer sa carrière puis de poursuivre dans tout ça que ce qu'on faisait. On était chanceux à Québec parce qu'on avait le droit aux joueurs étrangers des visas avec les Cubains. Mais je veux dire, pour aller chercher les autres joueurs, c'était pas toujours facile. Je pense qu'on va être capable d'attirer encore de meilleurs joueurs à Québec.
Plusieurs restent à Québec, là. Il y en a qui sont encore ici. Ils ont évolué quelques saisons avec les Capitales puis ils sont établis ici. Puis, on les voit. Toi, tu dois les voir encore, Michel. Tu sais, il y en a plusieurs quand même qui sont restés dans le secteur?
Ben, juste pour te donner une idée, il y avait un tournoi de softball il y a deux semaines ici au stade, puis on voulait former une équipe des anciens capitales, puis ça n'a pas été long, là.
Ah ouais?
On est capable, c'est ça qui est le fun. Il y a Brad Purcell, qui est un Australien, qui est maintenant ici. Il y a Oswald Pelé, il est de Montréal, puis il s'est promené, il est de retour ici. Puis toute cette gang-là, qui ont joué pour les capitales à un moment donné, décide de rester à Québec. Ils enseignent, ils redonnent aux jeunes. Fait que je pense que c'est bon tout ça.
T.J. Stanton, il est reparti, lui? Parce qu'il m'aime pas beaucoup.
T.J. t'aime pas beaucoup.
Il dit que j'ai ri de lui déjà, j'ai jamais ri de lui. Et surtout qu'il comprend rien en français. Je comprends pas. Michel, je veux pas te surprendre, puis t'as le droit de dire non. Je sais que t'es retourné sur les lieux de l'accident. Tu veux-tu en parler ou t'aimes mieux pas?
Ah non, il n'y a pas de problème.
T'es retourné sur les lieux de l'accident où Bob et le pilote ont perdu la vie. T'étais dans l'hélicoptère. C'était la première fois que tu y retournais?
Oui, absolument. Ça a fait 4 ans. Le 4 septembre, c'était la première fois.
Puis là, c'était du côté du Nouveau-Brunswick. Premièrement, avez-vous de la difficulté à vous rendre sur les lieux? Ça a-t-il été compliqué?
Il y a eu beaucoup de craintes. On s'est rendu la veille, puis le matin, c'était une journée là, semblable à celle d'aujourd'hui en soleil. Puis tout, on s'est dit comment on va faire pour se rendre sur les lieux. Puis on a expliqué aux policiers la situation. Il a dit, écoute, attends une minute, je vais regarder ça. Puis finalement, il a dit, garde, suivez-moi. Puis on l'a suivi jusqu'à l'endroit, là, une quinzaine de minutes. Puis il nous a déposé à cet endroit-là. On a passé une heure à cet endroit-là, puis après ça, on est reparti. Moi, dans ma situation, j'étais avec Steve, puis lui, suite à l'accident, il avait vu les restants de l'hélicoptère dans l'eau, à quel endroit c'est arrivé, tout ça. Et moi, l'endroit est magnifique, là, puis ça a été le fun de le faire quand même, puis de retourner là, sauf que pour moi, j'aurais jamais pu localiser l'endroit-là.
C'était comme une première visite pour toi, parce que tu te souviens pas de ce que ça avait de l'air là, quand t'es sorti de là, puis qu'on t'a emmené à l'hôpital?
Ben en fait, le bord de l'eau, là, quand je suis arrivé sur le bord, là, ça a rappelé des souvenirs, parce que bon, la sensation sous les pieds de l'eau, de la roche, tout ça, ça c'est encore là. Mais l'endroit de sortie qui est assez abrupt là, pour se rendre jusqu'au chemin, donc il a fallu que les pompiers en travaillent une shot là, pour couper les arbres, pour réussir à passer la civière puis se rendre jusqu'à l'ambulance. Ce bout-là, j'ai dit « wow ». Je sentais, mes yeux étaient fermés, puis je sentais que je me faisais barouetter de gauche à droite dans une montagne. Puis ça c'est dans ma tête, mais j'aurais pas pu reconnaître le chemin. Là, mais je me rends compte que, écoute, je les entendais travailler, puis se bousculer, puis s'encourager un à l'autre pendant une demi-heure de temps avec les chains, ça, puis tout ça. Puis j'ai refait le chemin à pied pour me rendre jusqu'à Rivière, puis ça, j'ai dit « aïe, ils n'ont pas eu ça facile ».
Au moment de l'accident, toi, tu savais-tu ce qui était arrivé de tes deux chums au moment où tu sors de là?
Non, pas du tout. Je suis dans la première fois que j'ai demandé des nouvelles, c'est dans l'ambulance pour le chemin vers l'hôpital. Puis on dit avec raison, là, les ambulanciers disent là, on pense que tu es dans une situation là, de où ce que le sanglier avance qu'il faut être à l'hôpital le plus vite possible. Donc, t'entends dans le walkie-talkie qui parle à l'hôpital de dire c'est un cas d'urgence, puis là, fracture du crâne, fracture du bassin probablement, décide de ça, puis tu sens que tu sens pas ou t'as mal, mais ce qu'on est en train de dire de toi, ça va pas bien, là, tu sais. Fait que quand tu demandes des nouvelles de tes chums, on te dit, écoute, on aimerait que tu te concentres sur toi-même, ça sera pas facile les prochaines minutes, là, tu sais. Fait que tu refaces ça de ta tête, là, tu repars, puis moi, j'ai su la nouvelle, une fois que je suis sorti du scanner, à l'urgence, c'est là qu'on m'a annoncé le décès de Bob puis de Fred.
Ouais. OK. Hey, ben merci Michel d'avoir partagé ça avec nous autres. Je suis content de l'entendre, je suis content de voir que tu vas bien, puis tu as toujours été extrêmement positif, extrêmement drôle. Alors on lâche pas, puis on souhaite du baseball en tout cas, ça c'est certain là, même s'il y a les séries du baseball majeur qui commencent bientôt.
J'ai peut-être une petite question pour Michel, oui? Parce que je veux reprendre la balle au bon, oui? Tu as parlé d'Henri Cazot tout à l'heure, c'est quoi les dernières nouvelles que tu as? Je comprends que c'était prévu cet automne pour la surface en synthétique, c'est encore ça donc?
Oui, je pense que les travaux vont commencer dans les prochaines semaines. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Hein? C'est pour les Alouettes, pour l'endroit où ils vont jouer, mais pour tout l'ensemble du baseball qui va pouvoir profiter de cet endroit-là. Je veux dire, on regarde ici au stade, on est rendu seulement 12% d'utilisateurs à l'équipe stade depuis qu'on a une surface synthétique. Puis je pense que c'est ce qui va arriver à Cazot. C'est que tous vont pouvoir l'utiliser. Puis ça se peut même qu'on réussisse à jumeler la gestion des deux terrains. Là. Fait qu'imaginez le paquet de tournois de balles provinciales qu'on peut faire avec ces deux terrains-là, qui ont quoi, à peu près 3 km d'espace entre les deux. Ouais. Donc, que ce soit softball, que ce soit fastball, tous les tournois d'amateurs, juniors, mineurs, on est capable de faire beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle.
Là, les anciens capitales, avez-vous gagné le tournoi de softball? Facile?
Ben non, on a perdu en demi-finale.
Ben voyons donc, comment ça?
On manquait de pitching un peu. C'est pas facile d'arriver de lancer partout, mais c'est tellement le fun à jouer, pareil, là, puis c'est vite. C'est un 5 manches qui se joue en 1h15, c'est pas trop long. Puis j'en reviens pas de la compétition qui entre chacune des équipes. Les joueurs se connaissent parce que ils s'affrontent depuis des années. Puis je sais pas si les gars vous jouez un peu à Balmol, là, mais
très beaucoup, très fort.
Il y a plein de légendes. Il y en a qui lancent depuis 20-25 ans.
Oui,
puis il y a toutes ces légendes-là que tu affrontes. Puis on dirait qu'ils se connaissent toutes. Puis ils se tassent tous au bon endroit parce qu'il dit lui. C'est facile de dire, lui, il frappe toujours par là. Ça fait 20 ans que tu l'affrontes, une fois par année. C'est ça qui est le fun. Puis on dirait que ça n'a pas changé. Le gars frappait dans la droite à 22 ans, toujours au même endroit. Il est rendu à 44, il fait encore les mêmes choses.
Michel, Stéphane fait demander si vous laissez Patrice Calabrini aux Alouettes de Charlebourg ou si vous le reprenez.
Non, mais ça a été une belle expérience pour Patan. Puis j'en ai parlé. Là, puis il est content de l'avoir fait, d'avoir tourné avec les jeunes et d'avoir côtoyé d'autres coachs aussi pour voir parce que Patrick travaille avec Baseball Québec des fois pour faire des conférences puis ça, puis en étant dans le milieu, de dire OK, c'est comment on coach au niveau junior, comment les gars font les choses. Ça a été pour lui vraiment constructif. Puis quand il va après ça s'adresser au coach, ben il va comprendre un peu plus ce que tes coachs le vivent.
En tout cas, on va être prêt pour le camp d'entraînement. Puis je te réitère le fait que je suis ouvert à une participation au camp. Je veux pas de privilèges. Puis je charge aucun salaire. Je fais ça bénévolement. Fait que si vous avez besoin d'un joueur d'arrêt-court, peut-être deuxième but aussi, là, mais pas trop loin de la cabane. Faut pas que ça soit loin de la cabane.
Mettez-moi pas trop loin de la cabane.
OK, merci Michel. On se reparle bientôt.
Salut.
Bye bye, mon ami Michel Laplante, le grand patron des Capitales de Québec.
Henri IV, direction sud, ça bouge beaucoup là de la capitale. Là, c'est un stationnement. Ça refoule pas tant que ça. Ça va à Chauveau à peu près, mais c'est quand même difficile dans
le
secteur.
Ça nous fait beaucoup d'auditeurs. Il y a le gars qui entend ça dans son genre, il fesse dans le volant. Hein?
Gros insignifiant, je suis en retard.
Ouais. Hey, c'est plate, pogné dans le trafic.
Ça doit. Ah, on vit pas ça, nous autres, honnêtement. On a cette chance-là de pas vivre ça.
On se lève tôt, mais on est chanceux de pas pogner de trafic.
Comme mettons, quand je pogne du trafic en moto, dans mes raids de moto, là, honnêtement, je le sais pas. Aux États-Unis, je crois que c'est pas illégal, là, mais je me mets sur la côte map en voyant en bas. C'est, premièrement, en moto, là, essaye de suivre le trafic. Premièrement, tu prends pas la place d'un char, là, c'est bien moins pire, là. Puis, tu sais, d'avoir toujours la main sur la cloche. Tu peux pas, là, te mettre sur le neutre, là. Faut que tu sois sur la cloche tout le temps, là. Tu viens les bras morts.
Le gars qui se sauvait à Miami, il faisait de la côte main aussi, pas mal.
T'as le confirme. C'était hier, ça?
C'était avant hier, ouais.
OK. Fait que, souvent, je me mets, puis tu le vois aux États-Unis, là, les motos passent entre les véhicules, puis tout ça, puis les vannes, ils se tassent, des fois. Mettons, je me souviens, dans l'État, tout près de New York, là, il y avait, je sais pas combien de voies de large, j'étais complètement bouché, complètement arrêté. Puis le pire, c'était pas des travaux pour un accident, c'était un poste à payage. Hey, c'était comme 4 km en avant, 4000 en avant. Tu sais, le poste à payage, j'étais dans 4000, c'était complètement arrêté un stationnement. Et on s'est enligné entre les voies, pas sur l'accotement, mais entre les véhicules. Puis des fois, ça passait serré à cause de mes pédales sur le côté. Mais le monde se tassait, puis ouais.
Ah oui, il était courtois?
Oui, oui. Okay. Honnêtement, aux États-Unis, oui. Ici, le monde, il bloque. Ça, ben ici, là, t'arrives dans un entonnoir, là, où on retranche une voie, il y a quelqu'un qui va se mettre pour bloquer. Hey, ils ont fait un entonnoir au bout, rentre-toi donc au bout. Je comprends pas ça. Il y a personne qui comprend ça. Qu'il faut se rendre. Si on décidait de mettre des cônes à tel endroit pour refermer une voie, ben ferme-les pas un mille avant. Il a remis les cônes un mille avant. Rentre, t'es dans la voie de gauche, puis elle s'élimine la voie de gauche. Mets pas ton flasher tout de suite. Rentre au bout. Au bout, on va y aller en zipper, chacun notre tour. C'est égal, il n'y aura pas de chicane. Là, si vous commencez à vous tasser plus tôt, vous créez un ralentissement plus tôt, puis là, vous venez en maudit parce qu'il y a du monde qui passe à côté de vous autres et ils vont plus vite que vous autres. Rendez-vous au bout. Tassez-vous pas tout de suite. Puis, il me semble que je me trompe pas en enseignant ça.
Non.
Bon.
Mais non, zipper,
c'est zipper au bout. Ils ont mis des cônes pour que tu te tasses rendu au compte.
Puis, si jamais vous voulez une démonstration sur YouTube, ça se trouve assez facilement.
YouTube. Ah oui?
Ah oui, écrit driving, zipper, puis quelque chose, des mots-clés.
Écris zipper, voir ce qui va t'arriver.
Il y a le manège de zipper.
Ouais. Il y a d'autres choses, des zippers.
Il y a d'autres zippers.
Zipper.
Eh, mes amis.
Ah, c'est, là, je suis au porn, ça marche pas, c'est pas ça.
Tu vas avoir quelque chose là-dedans.
On s'arrête.
Capable de chauffer une moto, mais son cellulaire un peu moins.
Hey, on s'arrête pas. On va faire piger quelqu'un. Il faut éliminer quelqu'un.
Faudrait.
C'est à moi de piger quelqu'un.
Dans le lac.
Vas-y, Stéphane. C'est le 6e éliminé ce matin. Il en restera seulement 4 après ceci. Oui, après. Pour gagner
la capsule.
Le superbe prix d'un séjour dans Charlevoix.
Il est éliminé, c'est bien dommage. J'aurais essayé de parler pour savoir si c'était vraiment son nom. Maxime Canapé.
Oh.
Lui, il se mouchait, lui, ce matin.
Comment, Max?
Max Canapé est éliminé.
Fais-tu voir la face.
Alors, non, mais je suis sûr.
Oui, il se mouche.
C'est peut-être un Français. Tu sais, des fois.
Non, mais on nous a dit que c'était probablement d'origine autochtone tout à l'heure par
Aristo. Ah oui, OK, OK. OK. Première Nation, qu'il faut dire. C'est l'été des Premières Nations qui s'en
vient. Je suis désolé.
Donc, il reste Marie-Ève Lessard, Peggy Duquette, Henrik Poirier, il a écrit. Il dit, j'ai jamais entendu. Il nous a texté tantôt. Il dit, il n'y a jamais personne qui a prononcé mon nom aussi souvent.
C'est quoi son nom, donc?
Henrik Poirier.
Poirier.
Ça veut dire. Non, mais ça veut dire qu'il était tranquille à l'école. Hey, parce que moi, Stéphane Dupont! Hey, as-tu entendu ça? 15 fois par jour. Stéphane Dupont!
Il reste quatre finalistes, t'en as nommé trois.
J'en ai juste nommé trois.
Oui.
J'arrête. Et il reste Amélie Couture.
Trois filles, un gars.
C'est la mienne, ça, Amélie?
Oui. Amélie Couture, c'est ton pic. C'est ça, moi, puis Ray, on est éliminés. Alors.
Je suis encore là avec Henrik.
Bien sûr. On va en éliminer un au retour de la pause.
Henrik.
Fait que. On appelle-tu Caillou? C'est vendredi.
Ben oui.
Là.
Travaille pas.
On va faire une pause.
Ouais, ça serait une bonne idée.
Caillou travaille pas.
Jamais bien travaillé. Ah. Il s'est promené en pick-up longtemps. Mais. Je sais pas. On va le savoir. Il doit être lendemain de veille, c'est vendredi. On l'appelle.